Puisse ouvrir ensemble la parole. Déjà, on a pas mal de passages qu'on a considérés. Beaucoup sur la résurrection. Je veux faire une petite intrusion dans les événements de la croix. Et comme je disais, on considère la croix Christ, notre Pâque. C'est la Pâque aujourd'hui. Et après-midi, on va considérer sa résurrection. Matthieu 27, si vous voulez. J'aimerais qu'on lise une portion pas si longue, 32 à 56, pour me donner la saveur, et je vais vous expliquer comment je veux couvrir ces écritures ensemble. Évidemment, c'est les événements qui ont trait à la crucifixion, selon Matthieu. Et on commence au verset 32, où est-ce qu'on peut lire? « Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon, et le forcèrent à porter la croix de Jésus. » Arrivé au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie « lieu du crâne », ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. Mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, il se partagea ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. « Ils se sont partagés mes vêtements, ils ont tiré au sort ma tunique. » Puis ils s'assirent et le gardèrent. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. » Avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Les principaux sacrificateurs et les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui et disaient « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. Si les rois d'Israël, qu'ils descendent de la croix et nous croirons en lui. » Il s'est confié en Dieu que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. Car il a dit « Je suis le Fils de Dieu. » Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani » C'est-à-dire, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Eli. Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixé un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, « Laisse, voyons s'il viendra le sauver. » Jésus poussant de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et ils apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, « Assurément, cet homme était fils de Dieu. » Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin et qui avaient accompagné Jésus dans la Galilée pour le servir. Parmi elles étaient Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Seigneur, quel passage sobre on considère ce matin. Parce que Seigneur, il fallait que tu passes par la croix pour que tu puisses triompher de la mort. Et Seigneur, on prie que tu nous ouvres les yeux sur la grandeur de la croix, sur le triomphe de la croix. Oui, il y a l'opprobre, il y a cette moquerie que Jésus a subie, cette colère qu'il a subie pour nous, les enfants de Dieu, mais Seigneur, qu'on voit que c'est dans sa croix que le triomphe est venu. Et Seigneur, on te prie que tu puisses nous enseigner, nous ton peuple, et que tu puisses convaincre quiconque ici n'est pas encore sauvé par la grâce de Dieu, né de nouveau par l'Esprit de Dieu, qu'aujourd'hui on ait la joie de se voir, de célébrer le salut de cette personne ou même de ces personnes, Seigneur. Toi qui convainc, toi qui travailles, fais cette œuvre pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Alors, dessinément, on finit. Pour ceux qui sont habitués d'être avec nous, on a fait une série, ça fait déjà plus qu'un an, qu'on est dans l'Évangile de Matthieu qu'on considère ensemble. Les dimanches après-midi, on a commencé, c'était les dimanches soirs, maintenant c'est dimanche après-midi. Et d'abord, je dirais qu'on finit de façon assez unique parce que ceux qui étaient là dimanche dernier, j'avais jamais demandé à quelqu'un de faire une partie d'une série que j'avais prêchée. Et Pasteur Burns, la semaine passée, a prêché dans le chapitre 27, 1 à 31. Et donc, c'est plutôt inusité. Mais je voulais qu'on puisse arriver au texte qu'on était là et le Seigneur a dirigé comme ça. Mais en plus de ça, j'ai jamais prêché un message de Pâques dans une série que j'ai souvent prêché. J'ai prêché à travers Ruth, j'ai prêché à travers... là, on est dans 1 Timothée. J'ai souvent prêché des livres de la Bible comme ça. Mais je n'avais jamais fait ça pour un dimanche de Pâques. Et... en plus de ça, on termine comme ça avec le message d'après-midi toute la série sur Matthieu. Donc c'est unique, c'est le Seigneur qui a dirigé comme ça. Et c'est drôle parce que, hey, je suis content qu'ils disent amen. Est-ce que quelqu'un t'a dit le mot? J'ai prêché quand j'étais en Nouvelle-Écosse. Puis là-bas, là, les gens, là, ça dit pas amen. Ils sont plates. Moi, je leur ai dit, savez-vous qu'on a le droit de dire amen? Tu sais, moi, j'étais là, puis j'étais tout motivé. Puis j'ai dit, nous autres, à notre église, maintenant, là, c'est vraiment une affaire vraiment super qui est arrivée, parce que avant, on disait pas trop amen, mais maintenant, ça dit pas de façon démesurée, mais un bon amen, de même, là. Tu sais, après un verset, après quelque chose, puis... Mais ils ont pas vraiment écouté, ça a pas trop dit amen, mais bon. Mais tout ça pour dire que ce que le Seigneur dirige pour nous d'être dans Matthieu puis de terminer avec la passion puis la résurrection, ben à l'église de nos amis les Eastwood, où est-ce que mon frère, pasteur Jérémy Eastwood est pasteur, c'est la même chose. Le Seigneur dirige de la même façon que j'ai dit, ben, c'est drôle pareil, hein? Comment le Seigneur travaille? J'aimerais qu'on considère le texte qu'on a vu. On va pas le faire verset par verset comme on a souvent fait dans la série de Matthieu. Fait que ça aussi, ça va être différent. Mais j'aimerais qu'on ait une approche plutôt globale, où est-ce qu'on va considérer l'image macro, si vous voulez. Ici, où est-ce qu'on est à l'apogée de la passion de Jésus, j'aimerais qu'on voit comment ça trace un portrait, oui, de la croix, mais aussi de l'humanité face à Dieu. Parce que, remarquez dans ce qu'on a lu, symboliquement, tous ceux qui sont autour de la croix représentent toutes les sphères, les domaines de la société, les personnes qui composent l'humanité. On a les méchants, les durs, les rebelles qu'on voit dans les soldats romains sans scrupules. On a les hypocrites qu'on voit dans le leadership religieux et la nation d'Israël. On voit aussi ceux qui ont la foi, qui ont trouvé la foi comme le centurion, le brigand. Et on a aussi ceux qui sont perplexes, comme les disciples et les femmes qui ont le lu, qui étaient aussi dans les disciples, qui regardaient de loin, attentives, observantes. Et c'est drôle comment il y a un recoupage dans ces groupes-là, parce que dans le groupe de ceux qui ont la foi, il y en a qui étaient dans les méchants, comme le centurion qui était dans les rebelles, puis le brigand aussi. On va voir plus tard, même dans les hypocrites, ceux qui étaient du Sanhédrin, il y a Joseph d'Arimathée, puis même aussi on l'apprend dans un autre évangile, Nicodème, qui ont trouvé aussi la foi. Et dans les perplexes, il y en a beaucoup qui, à travers cette grande épreuve de leur foi, en sont ressortis plus grands, plus forts. Comme le prophète Habacuc, ceux qui ont lu Habacuc dernièrement, c'est vous? Habacuc, c'est le prophète perplexe. Seigneur, comment tu vas faire une œuvre de même, te servir des méchants comme les Chaldéens pour juger ton peuple, pour faire une œuvre aussi méchante? Et c'était souvent le cri aussi des prophètes. Seigneur, comment ça que tu fais ces choses? Et vraiment, il y a tout ça avec la croix. Lorsqu'on est face à la croix, on se demande qu'est-ce que tout ça peut bien vouloir dire. Pour nous, c'est peut-être pas la même perspective, parce qu'on voit tous les événements jusqu'à ce qui est arrivé après la résurrection. Mais quand on comprend ces gens-là, ils étaient face à une grande contradiction. Contradiction, comment le Fils de Dieu est traité comme un criminel? Et il meurt comme ça, alors qu'il devrait triompher, alors qu'il devrait venir dans son règne. Mais c'est comme ça qu'il venait dans son règne. Fallait qu'il passe par la croix. Et quand on observe la scène comme ça, comme on peut observer aussi notre monde, on n'a pas toutes les réponses. Il y a bien des choses qu'on ne comprend pas. Mais j'aimerais qu'on regarde trois choses ensemble qu'on peut comprendre de cette scène de la croix et qui va nous aider, nous aussi, à comprendre dans notre vie les choses que Dieu veut qu'on comprenne. J'aimerais qu'on voit ça par rapport à, avec trois attitudes face à Christ, notre Pâque. Trois attitudes face à Christ, notre Pâque. D'abord, l'attitude du Père. L'attitude du Père, c'est l'abandon de Christ, notre Pâque. On lit au verset 46, « Et vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » C'est une citation du psaume 22, verset 2. C'est l'accomplissement des Écritures. Et cette non-intervention du Père envers le Fils n'est pas de l'indifférence. Loin de là, en fait, Dieu a même manifesté sa présence avec les trois heures de ténèbres qu'il a envoyées. C'est Dieu le Père qui faisait ces choses. Parce que le Père approuvait parfaitement le Fils, mais aussi le Fils était éprouvé, c'était l'heure des ténèbres. Ça aussi, ça nous dit dans Luc 22, Jésus a dit, « J'étais tous les jours avec vous dans le temple et vous n'avez pas vu la main sur moi, mais c'est ici votre heure, la puissance des ténèbres. » C'est le moment où est-ce que la grande œuvre de rédemption s'accomplissait. Et c'est pour ça que le Père a laissé les choses allaient comme ça. Il abandonnait le Fils. C'était sa volonté parfaite à ce moment-là pour le Fils. Quelle pensée de savoir que ça peut être la volonté de Dieu de nous abandonner pour un temps. Vous savez, il a fait ça avec le roi, un des rois d'Israël. Écoutez ce que ça dit dans 2 Chroniques 37. Ça nous parle ici d'Ézéchias. Ça dit que Dieu a envoyé des chefs de Babylone, des messagers auprès du roi pour s'informer du prodige qui avait eu lieu dans le pays. Dieu, donc le roi ici, l'abandonna. Dieu l'abandonna. Même mot. Dieu l'abandonna pour l'éprouver afin de connaître tout ce qui était dans son cœur. Vous savez, des fois, on voit les choses qui nous arrivent comme « Dieu m'a abandonné. Dieu, pourquoi tu n'agis pas? Pourquoi il n'arrive rien? » Puis on se dit « Certainement, je ne dois pas être dans la volonté de Dieu. Certainement, il y a quelque chose que j'ai dû faire de pas correct qui doit faire que je mérite cette chose-là qui m'arrive. » Mais comprenez que oui, ça peut être le cas. Si on abandonne Dieu, si on le laisse, on va avoir les conséquences. Mais ça se peut aussi d'être au centre de la volonté de Dieu et que pour un temps, pour être éprouvé l'épreuve de notre foi, Dieu nous abandonne. Pas nous laisse complètement aller, puis comme si on n'est plus dans les bras de sa grâce. Mais Dieu abandonne pour un temps. Et j'aimerais vous dire que il y a une sécurité à savoir que même dans ces moments-là, Dieu sait se manifester à sa façon. Amen. Dieu s'est manifesté au Fils. Avec les ténèbres qu'il y avait sur la terre et tout ça, c'était l'heure des ténèbres et tout se passait comme il était écrit. Et je ne sais pas pour vous, mais moi je pense que d'une certaine mesure, il est tellement moindre, évidemment, que ce qui est arrivé ici dans notre texte. Mais est-ce qu'on s'entend que, puis même on a lu un passage prophétique sur l'époque qui nous caractérise. On est dans un temps de ténèbres, de tromperies, où Dieu laisse les puissances des ténèbres agir. C'est Dieu qui permet ça. Mais ô combien la grâce de Dieu se manifeste, n'est-ce pas ce matin qu'on peut voir, wow, je veux dire, puis on prend pas notre gloire dans le nombre de personnes qu'il y a dans l'église et tout ça, mais je partageais avec une sœur tantôt, ce qui est spécial, c'est que Dieu nous envoie du monde qui le cherche, qui le désire lui, et ça c'est la grâce de Dieu, et savez-vous quoi, même si les choses vont tout croche dans le monde, si c'est comme ça justement que Dieu accomplit ses plans rédempteurs, mais que la volonté de Dieu soit faite. Il y a un prix à la foi, il y a un prix à suivre Dieu, mais la récompense est grande. Parce que le juste vivra par la foi et Dieu rémunère ceux qu'il cherche. Et donc, comme Jésus ici sur la croix qui a crié, il s'est ouvert le cœur, il a dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Lorsqu'on passe et qu'on vit par des moments d'abandon comme ça, où est-ce qu'on se sent seul, où est-ce que c'est difficile, mais qu'on crie comme ça, on est en train d'exprimer à Dieu que nous, en retour, on s'abandonne à sa volonté. C'est ce que Jésus faisait ici. Oui, il a été abandonné du Père pendant un temps, mais lui-même s'abandonnait entre ses mains. Et pour nous, on exprime comme ça notre foi, notre confiance totale en lui, en son caractère, en ce qu'il est, en ses voix, lorsqu'on écrit, on s'écrit de la même façon, « Dieu, je m'abandonne en tes mains. » Et ça m'amène au deuxième point, la deuxième attitude, non seulement l'attitude du Père qui était celle, oui, d'abandonner le Fils pour un temps, et c'était pour un temps, mais aussi l'attitude du Fils, qui est le don de Christ, notre Pâque. Non seulement l'abandon, mais le don de Christ, notre Pâque. Dans le même texte ici, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » On a le même verset, mais qu'on peut voir sous un angle différent. Celui du Fils qui se donne. Ce cri de Jésus-Christ est celui de la souffrance, de l'angoisse. Mais certainement, ce n'est pas vécu comme nous, on peut vivre la souffrance et l'angoisse. Parce que pour Jésus ici, c'était pour la première fois dans l'histoire de l'univers, de toute éternité, qu'il y avait une absence de communion entre le Père et le Fils. La communion était brisée à cause que le péché tombait sur le Fils. Cette présence proche, cette proximité, cette communion parfaite qu'il y avait entre le Père et le Fils était brisée pour nos péchés. Pour nous, évidemment, quand on n'est pas en communion avec Dieu, ça cause de l'angoisse et de la souffrance. Mais jamais on pourra vivre ou ressentir les choses comme Jésus l'a vécu. Parce que lui est en parfaite communion avec le Père. Tandis que nous, souvent l'angoisse et la tristesse est pour qu'on ressente notre misère et qu'on se repente pour retourner à Dieu. La repentance à salut dont on se ne repent jamais. Et ça pour restaurer ce qui a été brisé par le péché. Et Dieu sauve le malheureux dans sa misère. Et c'est par la souffrance qu'il l'avertit. Vous savez, Jésus, toute sa vie, il a été un homme de douleur accoutumé à la souffrance. Donc, depuis longtemps, il vivait la souffrance du fait d'être venu pour se donner comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, il vivait dans la souffrance et le rejet des hommes. Mais ici, c'est l'ultime souffrance. La souffrance d'être abandonné par Dieu lui-même pour accomplir cette grande vérité qu'on voit, nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Ésaïe 53, 6. Et ce rejet que Jésus a vécu parce que lui-même s'est donné est exprimé d'une façon tellement puissante et unique dans les sept paroles qu'il a prononcé sur la croix. C'est le chiffre de ce qui est complet, de ce qui est parfait. C'est la pleine expression de son cœur, de son attitude alors qu'il était à ce moment de faire le don suprême de sa vie. Écoutez ces paroles. D'abord, il a dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » C'est la parole de pardon pour ses ennemis. C'est la grâce qu'on voit dans Jésus qui se donne, dans le don de Christ notre Pâque. Écoutez, l'autre parole, là je viens de vous lire, j'avais lu Luc 23, 34, écoutez, Luc 23, 42, 43, il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi, si c'est le brigand qui parle sur la croix, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Les paroles de salut envers le brigand sur la croix, c'est la restauration, la rédemption du don de Jésus-Christ, notre Père. Écoutez, la troisième parole que Jésus a exprimée sur la croix, près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléopas. T'as peu, j'ai pas mis le bon verset. 25, en tout cas, il dit, il a dit à Jean, « Mère, voici ton fils. » Ok, c'est des paroles d'affection qu'il a exprimées envers sa mère. Et c'est la bonté de Christ, du don de Christ, notre Père. Même sur la croix, il se souciait des autres. Quel dévouement, quelle abnégation. Mais écoutez aussi, celle-là qu'on a lu déjà à plusieurs reprises, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Cette quatrième parole, c'est des paroles d'angoisse envers son Père. C'est le prix du don de Christ, notre Père, qui devait être abandonné afin que nous, on puisse être réconciliés avec Dieu. Puis, dans Jean 19, 28, ça dit après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'Écriture soit accomplie, « J'ai soif ». C'est des paroles d'agonie devant ses spectateurs. Il était comme ça dans un état de grande faiblesse. C'est l'humiliation de Jésus-Christ, le don suprême de Dieu. Oh, mais ça n'a pas fini là. Parce qu'on lit la sixième parole, c'est quand il eut pris du vinaigre, il dit « Tout est accompli ». Et baissant la tête, il rendit l'esprit. C'est les paroles de victoire envers son peuple. C'est le fruit du don de Christ notre Père. Et finalement, la dernière parole, Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et disant ces paroles, il expira. Les paroles de contentement envers son Père, il avait accompli l'œuvre pour laquelle il était venu. C'est la gloire de du don de Christ notre Père. Toutes ces paroles qu'on vient de lire, les paroles de Christ sur la croix, démontrent que Jésus-Christ était parfaitement au contrôle à l'heure même de sa mort. Sa pire heure, il en était au contrôle. C'est pour ça que Jésus a dit, écoutez, dans Jean 10, ça nous dit, le Père même, Jésus a dit, « Parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne moi-même. » J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. C'est le don volontaire, c'est lui qui l'a fait. Il est souverain, même sur sa propre mort. Il n'a pas subi la mort, il a donné sa vie. À combien plus forte raison n'est-il pas aussi en contrôle de notre vie? Si lui a contrôlé jusqu'à la façon qu'elle allait mourir, puis le moment qu'elle allait mourir, pourquoi on s'inquiéterait? Gens de peu de foi. La vie humaine peut se résumer simplement à ceci. Soit qu'on nous voulons contrôler notre vie, ou soit qu'on la laisse, on la donne au contrôle de Dieu. Et pour certains, ça peut être une question de vie et de mort, de perdition éternelle ou de salut éternel. Parce que le salut, c'est se courber devant celui à qui nous devrons tous rendre compte. Le salut, ce n'est pas une religion, ce n'est pas des paroles qu'on dit, ce n'est pas des choses qu'on fait. Le salut, c'est s'humilier devant celui devant qui on devra compte et devant celui qui a donné sa vie afin qu'on puisse avoir la vie. Je vous donne quelques versets. Si vous êtes ici, vous n'avez pas encore reçu la vie par Jésus-Christ, écoutez ces versets. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Écoutez ici Tite 3. Versets 4 et 5. « Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour tous les hommes a été manifestée, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle, dans l'attente. » On a les prémices maintenant, si vous êtes un enfant de Dieu, mais un jour on va être face à lui, on va être comme lui parce qu'on va le voir tel qu'il est. Si vous n'êtes pas encore sauvé, vous devez passer par celui qui a donné sa vie. Essayez pas de donner à Dieu ce que vous pouvez essayer de donner. Confiez-vous en celui qui a donné une fois pour toutes sa vie, même la vie parfaite. La vie qui est la seule vraie vie. Nous, notre vie, elle est entachée. Mais la vie de Christ, elle est pure. Il l'a donnée comme une offrande. Lui, juste pour nous, injuste. Et donc, où est ta confiance ce matin? Dans ta justice ou dans celle de Christ? C'est la chose la plus importante qui va déterminer où est-ce que tu vas aller pour l'éternité. Et j'ai une application pour les enfants de Dieu. Avec le titre encore, mais chapitre 2, verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne, cette grâce du don de Dieu, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Si Christ s'est donné tellement abondamment, généreusement, en retour, nous devons nous donner aussi. Simplement, en réponse à ce que lui a fait, en réponse à son don, on se donne. Et là, c'est la vraie vie qui commence, la vie abondante que Jésus est venu donner. Ça nous amène à la troisième attitude manifestée dans cet apogée de la croix, dans l'apogée de la passion, l'attitude de l'humanité. L'attitude de l'humanité nous parle du pardon de Jésus, notre Pâque. L'histoire de la passion, quand on le voit sous l'angle de l'humanité, c'est pas très beau. On voit tout ce qui se passe là, de l'incrédulité, de la méchanceté, du rejet. Mais ça nous rappelle que la Bible nous dit « Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Le Père n'a pas attendu qu'on mérite d'avoir son Fils pour nous donner son Fils. Il l'a fait par pure grâce parce que nous étions dans un besoin total. Et il l'a fait lorsque nous étions à notre pire, lorsque nous étions pécheurs. Christ est mort pour nous. Dieu n'a pas attendu que l'humanité soit à son apogée, qu'il y a eu une espèce de restauration déjà. Non, il est venu au moment où est-ce que toute cette méchanceté était là afin d'être exalté comme le Dieu vrai et bon, le seul sauveur. Jésus est venu briser la honte, chasser la peur, vaincre l'orgueil, l'incrédulité, et offrir le plein pardon, la restauration à quiconque le reçoit par la foi. Le reçoit par la foi et se confie en sa personne puis en son œuvre. Je termine avec ceci, avec Joseph d'Arimathée. On va lire à partir du verset 57. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée nommé Joseph, qui était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus, et Pilate ordonna de lui remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc, et le déposa dans un sépulcre neuf qui s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et s'en alla. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises vis-à-vis du sépulcre. Joseph d'Arimathée, le disciple secret du Sanhédrin, en fait, il n'a pas été si secret, parce que quand est venu le moment, il y avait la foi en Christ et ça s'est manifesté au moment où est-ce que il a déposé son suffrage contre la mort de Jésus. Écoutez ce que ça nous dit dans Luc 23. Il y avait un conseiller nommé Joseph, c'est Joseph d'Arimathée, homme bon et juste qui n'avait point participé à la décision et aux actes des autres. Il était d'Arimathée, ville des Juifs. Il attendait le royaume de Dieu. On sait que c'était un croyant, qu'il avait foi en Christ. Et il était un disciple, on peut dire, secret, mais avec ses tournures d'événements, la croix et tout ça, il est devenu un disciple courageux après la résurrection. Parce qu'encore là, on peut lire dans Marc au chapitre 15, « Le soir étant venu, comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, arriva Joseph d'Arimathée, conseiller de distinction, qui lui-même attendait le royaume de Dieu. Il osa, Marc nous spécifie, il osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus. » Ça demandait la foi, c'était risqué ce qu'il faisait. Alors pourquoi ce courage? Pourquoi oser alors que tout le monde l'avait abandonné, hein? Et que d'autres, on l'a lu aussi, il avait l'air attristé. Il dit, nous espérions que c'est lui qui allait amener la restauration. Alors que d'autres avaient perdu courage, Joseph reprenait courage, reprenait espoir. Pourquoi? Je crois simplement parce qu'il avait été saisi par la vision de la croix. Comme Paul l'exprime dans Galates au chapitre 6, « Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. » Ce qui remplissait le cœur de Paul lorsqu'il a écrit Galates 6, 14, avait saisi celui de Joseph, l'étincelle qui avait allumé le feu du courage pour lui. C'était de voir cette croix qui était l'accomplissement de tout ce qui avait été accompli. Fait que même avant la résurrection, il avait vu dans la croix cet espoir, cet accomplissement de ce qui avait été annoncé par les prophètes. Et donc ce matin, ma question, c'est comment tu réponds à cette croix? Par l'indifférence de l'incrédulité? Par la nonchalance de l'orgueil, de dire « Ah, c'est pas pour moi, c'est pour un autre. » Oh, que Dieu nous donne à tous la bonne disposition, la bonne attitude face à cette croix. Puis c'est exprimé dans un chant que j'aime beaucoup. Je vous lis juste deux strophes. Je ne vais pas vous la chanter parce que je ne chante pas très bien. Je ne veux pas vous faire peur. On va vider l'église aussi vite qu'elle s'est remplie. « Aurais-je un cœur de pierre, si dur, si froid, glacé, au point de voir souffrir Jésus pour mon péché, sans jamais compatir avec son sacrifice. Aurais-je un cœur de pierre en voyant Dieu le Fils? N'ai-je pas des yeux pour voir, moi muni de mes armes, cette innocence blessée, sans verser avec larmes, puis-je être indifférent à cette tragédie? N'ai-je pas des yeux pour voir l'agneau de Dieu meurtri, en contemplant le sang de ce crucifié, la pensée me transperce, c'est pour moi qu'il l'a fait. Seigneur, fais-moi sentir la coupe que tu dois boire. Ô, brise ce cœur de pierre, aide mes yeux à voir. » Oh oui, Seigneur. Aide nos yeux à voir la grandeur, la splendeur de la croix, de son triomphe sur tous les ténèbres, sur tout le péché. Ouvre nos yeux pour voir, oui, l'horreur, l'opprobre de la croix afin d'apprécier l'espérance et le triomphe de la résurrection qu'on va considérer après-midi. Seigneur, on a considéré le cœur de ta parole, ce qui avait été annoncé par les prophètes, ce qui a été annoncé et accompli en Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même. Et le pardon est maintenant et là, est disponible. Si quelqu'un est ici sans ce pardon, qu'il est encore dans ses péchés, qui n'ont pas encore été lavés dans le sang de l'agneau, que cette personne aujourd'hui voit qu'elle a simplement à se confier en celui qui a dit et qui a fait, tout est accompli. Et Seigneur, pour nous, ton peuple, oh, qu'on vive à la lumière de cette croix, de ce triomphe. Et Seigneur, on veut répondre à ton appel, à l'appel de la croix. On ne veut pas être indifférent. Ouvre nos yeux pour voir. On te demande toutes ces choses au nom de Jésus. Amen.